Bonsoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette deuxième conférence du thème que nous avons choisi cette année à l'ISM dans le cycle des conférences publiques qui est donc pouvoir et autorité en islam. Et le thème d'aujourd'hui concerne les femmes et le pouvoir en islam. C'est Madame Azadeh Khian, professeure de sociologie à l'université Paris 7 Diderot, qui va traiter de cette question et qui va vous présenter cette question. Madame Azadeh Khian est une spécialiste du féminisme d'une part en islam et de l'Iran d'autre part. Elle dirige le centre d'enseignement et de documentation et de recherche féministe qu'on appelle le CEDREF. Et elle est également membre fondatrice du réseau universitaire et scientifique euroméditerranéen sur le genre et les femmes. En outre, elle est directrice adjointe du GIS, le groupement d'intérêt scientifique créé par le CNRS il y a quelques années, GIS Moyen-Orient et Monde musulman. Alors, elle a publié un certain nombre d'ouvrages sur l'Iran, d'une part, la République islamique d'Iran, Maison du guide à la raison d'État, Michalon, donc maison d'édition en 2005. Un autre ouvrage aussi sur l'Iran, l'Iran, un mouvement sans révolution, la vague verte face au pouvoir mercanto-militariste. Et a dirigé un certain nombre de revues thématiques, en particulier un cahier du CEDREF en 2010 intitulé « Genre et perspectives postcoloniales ». Enfin, sur les études de genre et sur le féminisme, elle a participé récemment à l'ouvrage « Femmes, genre, féminisme en Méditerranée, le vent de la pensée », publié aux éditions Bouchen en 2014 et dirigé par Christiane Vauvy et Mireille Azouk. Le chapitre qu'elle a rédigé dans cet ouvrage s'intitule « Femmes et féminisme au Moyen-Orient, des voix plurielles ». Vous voyez que c'est vraiment adéquat pour parler de ce thème. Je laisse donc la parole à Madame Azadeh Khian. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le directeur de l'ISM. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être venus. Aujourd'hui, étant donné que le thème porte sur les femmes et le pouvoir en islam, et que ici même, il y a l'année dernière, il y a deux ans, je me rappelle plus, j'ai déjà fait une intervention sur les femmes plutôt séculières et les mouvements féministes au Moyen-Orient, j'ai préféré aujourd'hui parler en particulier des femmes musulmanes qui réinterprètent le Coran et les traditions. Et je vais donc essayer d'aborder à la fois la question des femmes comme enjeu de pouvoir, mais également la question des femmes en quête de pouvoir, et tout ça à l'intérieur, donc disons, de l'islam. Pour situer ma réflexion, je commencerai par une petite introduction. S'agissant de la montée des mouvements islamistes, les attentats du 11 septembre 2001, le débat sur le voile islamique en France, et plus récemment, les deux attentats en janvier 2015 à Paris ont popularisé une perspective qui essentialise la différence entre les valeurs dites occidentales et celle des musulmans vivant en Occident et dans des sociétés à majorité musulmane. S'inspirant de cette perspective culturaliste essentialiste, la question idéologique et le rôle de l'islam dans la vie des femmes sont mis en exergue comme si les musulmanes vivaient exclusivement dans le monde clos de religion et d'idéologie. Ces analyses se font au détriment de l'interaction entre le genre et l'idéologie, la religion, l'économie ou encore le politique. Cette analyse occulte aussi les contestations des inégalités sociales entre les hommes et les femmes par celles qui refusent les justifications divines de l'action humaine et se positionnent dans les systèmes de valeurs et de luttes politiques qui ne sont pas centrés autour de l'Occident comme l'autre. Ce contexte impose une double oppression aux femmes dites musulmanes. Je dis dites musulmanes parce que toutes les femmes vivant à la fois en France ou dans des pays à majorité musulmane ne se considèrent pas non plus comme musulmanes. Il y en a qui ne le sont même pas. Donc, ce contexte impose une double oppression aux femmes dites musulmanes. D'une part, l'islamophobie sexuée a été accentuée, revitalisant les tropes orientalistes et les représentations des femmes musulmanes comme victimes de l'islam, dépourvues de puissance d'agir, ayant besoin d'être sauvées des hommes musulmans et de l'islam. D'autre part, elles subissent l'oppression des islamistes qui, dans leurs discours et actions souvent violents, imposent des limitations importantes aux droits des femmes au nom de la préservation des valeurs dites islamiques. En accordant la primauté aux facteurs religieux, les néo-orientalistes, occidentaux et occidentales, admettent de fait le postulat des islamistes, qui, dans une approche positive de la nature, essentialise les différences entre l'Orient musulman et l'Occident, de même qu'entre les hommes et les femmes, et exclut toute possibilité d'atteindre l'égalité de genre dans les sociétés à majorité musulmane. Mais comme le précise Marnia Lazreg, en qualifiant la religion de cause principale des inégalités et en percevant les femmes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord comme des êtres historiques, ce paradigme compromet toute analyse de changement. Il a pour conséquence de priver tout simplement les femmes d'exister. Donc, dans un premier temps, j'essaie d'aborder la question des femmes comme enjeu de pouvoir. Je commencerai par dire que le contrôle des femmes, de leur corps et de leur sexualité, qui est au fondement du pouvoir patriarcal, s'exerce par l'institution familiale fondée sur le mariage patrilinéaire ou ce que Claude Lévi-Strauss a appelé l'échange des femmes entre les hommes. La structure hiérarchique du mariage, telle qu'elle a été instituée après l'avènement de l'islam, est liée au peuple sédentarisé, mais elle est en contradiction avec la vision éthique de l'islam, qui, elle, est égalitaire, y compris entre les sexes. Selon Omaïma Aboubakr, les différences biologiques femmes-hommes peuvent et doivent être transcendées vers les formes d'intégration et d'union dans le créateur unique. Donc le mariage matrilinéaire ou uxori local existait parmi les types de mariages en Arabie, y compris à la Mecque lors de la naissance du prophète en 570. La femme demeurait dans sa tribu après le mariage, le mari pouvait la rendre visite ou même habiter avec elle, les enfants appartenaient à la tribu de la mère. Les mariages polygames et selon certains chercheurs même polyandres existaient aussi. Et les femmes, comme des hommes, pouvaient initier le mariage et le divorce. Certains historiens précisent aussi la multitude des formes de mariage en donnant l'exemple d'Amina, la mère du prophète, qui est restée dans son clan après son mariage. Abdellah, le père du prophète, venait lui rendre visite et il décède avant la naissance de Mohammed. Et ce dernier ne passe dans le clan de son père qu'après le décès de sa mère. Leila Ahmed, quant à elle, compare deux mariages du prophète pour montrer ses changements. Khadija, la première épouse de Muhammad, lorsqu'il avait 25 ans, Khadija était 15 ans son aînée, une riche veuve commerçante qui a employé Muhammad pour surveiller sa caravane entre la Mecque et la Syrie. C'est elle qui a demandé Muhammad au mariage quand elle avait 40 ans. Mohammed recevra sa première révélation quand Khadija était quinquagénaire et elle décède à l'âge de 65 ans. Le prophète est resté monogame tout au long de ce premier mariage. La conduite de Khadija était donc formée par et dans la société et les coutumes de Jahiliya plutôt qu'islamique. Aïcha, quant à elle, l'épouse favorite du prophète, est née dans une famille musulmane, fille d'Abou Bakr, deuxième calife après le prophète, le plus proche soutien du prophète, qui a proposé sa fille et insisté sur ce mariage. Aïcha s'est mariée à l'âge de 9 ou 10 ans avec le prophète, qui était déjà polygame. Aïcha vivait dans une période de transition et a dû observer le port du voile, tout comme d'autres épouses du prophète et mère des musulmans. Des chercheurs affirment également. Vous savez que je ne suis pas historienne, hein, donc j'utilise bien évidemment les travaux et les publications des historiens. Et pour ce qui concerne la période médiévale, là je parle vraiment sous le contrôle de Pascal Bourrézy, qui me corrigera si besoin. Donc, de même, certains chercheurs affirment que la société pré-islamique était déjà en train de changer vers le mariage patrilinéaire avant même l'avènement de l'islam. Ce dernier a consolidé ces changements. Mais je précise quand même que, contrairement à ce que beaucoup croient, le mariage matrilinéaire ne veut pas dire que les femmes avaient un pouvoir plus important ou un accès plus grand aux ressources économiques. L'infanticide féminin était pratiqué sur des filles, plutôt, ce que le Coran a condamné, relatant la honte associée avec le sexe féminin chez les Arabes de Jahiliya. Toutefois, il me semble que l'argument selon lequel l'islam a amélioré de façon tous azimuts la position des femmes paraît trop simpliste. Par exemple, Mohammad Mujtahid Shabestari, l'un des clercs réformistes les plus en vue en Iran, précise que le prophète a interdit l'infanticide féminin, établi le droit à la propriété des femmes, limité le nombre des femmes polygames, réformé le droit à l'héritage des femmes, etc. Son cheminement était donc de l'injustice vers la justice. Tandis que d'autres chercheurs pensent qu'à l'époque de Jahiliya, qui par ailleurs veut dire ignorance, les femmes jouissaient d'une autonomie sexuelle plus grande par rapport à ce que l'islam leur permet. De plus, l'islam, comme je l'ai dit précédemment, a institué le mariage patrilinéaire, patriarcal, comme le seul mariage légitime. Les transformations sociales et économiques ont influencé les lois, les préceptes et règlements instaurés par l'islam. La montée en puissance de la Mecque comme centre commercial pendant 5e et 6e siècle et la sédentarisation progressive de tribus importantes comme les Rolaïchi ont conduit à l'affaiblissement des valeurs tribales, en particulier la notion de la propriété commune qui a disparu au fur et à mesure que les individus commerçants ont accumulé la richesse. Les hommes souhaitaient alors passer la propriété qu'ils avaient accumulée à leurs enfants et ont accordé ainsi une importance à la filiation paternelle, d'où le passage de matrilinéarité à patrilinéarité. En revanche, la Médine, qui était une société agricole et avait une loi successorale consistant en une division complexe de la terre, me semble avoir influencé le droit successoral islamique selon lequel les femmes héritent l'équivalent de l'air, mais pas de la terre. Donc c'est très compliqué, mais il me semble que c'est fondé peut-être sur l'exemple de la Médine à l'époque. L'infiltration des influences iraniennes parmi les tribus du nord de l'Arabie associées aux relations commerciales qui existaient entre la Mecque et la Syrie et l'Empire byzantin, mais aussi vers le sud avec le Yémen et l'Éthiopie, impliquait l'exposition de l'Arabie à l'organisation sociale du genre dans ces sociétés. Le monothéisme caractéristique des religions prédominantes, à savoir le judaïsme, le christianisme et, pour ce qui concerne l'Iran, surtout le zoroastrianisme, et le mariage patrilinéaire se sont étendus dans l'Arabie polythéiste avant même que le prophète commence à prêcher l'islam. La tradition du voile et la ségrégation des femmes, quant à elles, datant de la période pré-islamique, tirent leur origine des sociétés orientales et méditerranéenne non arabe. La première référence au voile date d'un texte de la loi Hammurabi en 1772 avant Jésus-Christ. Puis il y a la loi assyrienne du XIIIe siècle avant Jésus-Christ qui restreignait l'usage de voile aux femmes respectables et interdisait le voile aux prostituées. De même, le port du voile associé à la ségrégation des femmes était un symbole du statut social caractérisant l'élite dans l'ancien empire gréco-romain, l'empire perse et byzantin. Les musulmans auraient adopté ces deux traditions. Mais du vivant du prophète, le voile et la réclusion n'étaient pratiqués que par ses épouses. Il s'agissait de mettre une distance entre les musulmans musulmanes ordinaires et les femmes d'un puissant leader d'une nouvelle société patriarcale. Cette distinction est probablement calquée sur une pratique qui existait en Iran et aussi en Byzance. Les personnes qui ne faisaient pas partie de l'entourage royal n'avaient pas le droit de s'approcher ni même de voir le roi. Même Khosrow Anushirvan, le roi sassanide, dont le règne était marqué par justice, sagesse et tolérance, recevait le peuple derrière un rideau. Donc, cela étant dit, on va pas trop non plus taper sur l'Iran. Cela étant dit, l'Iran sous l'Empire sassanide, c'est-à-dire avant la conquête islamique, a connu deux impératrices, deux sœurs, Azarmidort, qui a régné de 628 jusqu'en 630, et Purandort, qui a régné de 630 jusqu'à sa mort en 632. Il y avait aussi visiblement des femmes guerrières. La polygamie, par ailleurs, a joué un rôle important dans la consolidation du pouvoir du prophète et aussi de l'islam. La polygamie, que je ne défends absolument pas, mais c'est juste pour vous montrer que la polygamie a joué un rôle aussi politique très important dans la formation de l'État saoudien dans les années 1930, bien sûr. Alors, les mariages du prophète créaient des liens avec les membres de la communauté musulmane. Ces femmes pouvaient demander le divorce et avaient obtenu le titre de mère des croyants. En contrepartie, elles ne devaient pas se marier après la mort du prophète. Mais on pense qu'elles vivaient en toute simplicité, faisaient elles-mêmes les travaux domestiques, qui, comme vous le savez, reviennent surtout aux femmes, et aller chercher de l'eau, etc. Et même la fille du prophète Fatma, l'épouse d'Imam Ali, ne faisait pas exception à cette règle. On pense aussi que c'est pendant le règne de Omar, de second calife, et suite aux conquêtes que les musulmans deviennent riches, et les femmes du prophète, en particulier Aïcha, ont reçu de la part d'Omar, donc le troisième calife, une pension confortable. C'est aussi sous Omar qu'une série d'ordonnances religieuses, civiles, pénales, dont la lapidation pour adultère a été promulguée. La lapidation pour l'adultère n'existe pas dans le Coran. Omar est connu pour avoir été violent envers les femmes. Il est connu pour avoir maltraité les femmes et même a empêché les femmes de participer à la prière dans la mosquée et a imposé les prières séparées entre hommes et femmes, a interdit aux femmes d'être imams et a même interdit aux femmes de prophètes d'aller au pèlerinage, alors même que, de son vivant, le prophète avait nommé une femme comme imam pour sa famille, ce qui était composé aussi d'hommes sous le prophète. Et donc, on pense que Ousmane, le troisième calife, a levé les interdits imposés par Omar. Maintenant, je passe à la question des femmes en quête de pouvoir en islam. Pour dire que l'histoire des sociétés à majorité musulmane montre que les femmes y jouissaient aussi de l'autorité, tant du fait de leurs connaissances religieuses que littéraires, poétiques, scientifiques ou encore politiques et militaires. Elles ont tenté d'influencer, de subvertir ou de contester la structure sociale dominée par les hommes que les lois islamiques ont consolidée. La présence des femmes dans le domaine de sciences religieuses comme spécialistes et enseignantes de hadith, de jurisprudence, était très importante au XIVe et XVe siècle. Le hadith, c'est-à-dire les dires et les faits du prophète, a commencé à être collecté dans sa forme écrite 3 à 4 siècles après la mort du prophète. Les premiers hadiths avaient d'ailleurs été relatés par des femmes de la génération du prophète. Les femmes étaient alors consultées même sur la question de la succession du prophète. Ce qui montre que l'islam n'avait pas de problème d'accepter l'autorité des femmes. Les muhaddisat, c'est-à-dire les spécialistes de hadith, disséminaient le hadith aux femmes et aux hommes. Celles qui étaient spécialistes de la jurisprudence étaient spécialistes dans différentes branches et étaient souvent consultées sur des questions concernant à la fois la loi et les ahkam, c'est-à-dire les principes. Les muftis femmes possédaient aussi la connaissance religieuse, culturelle et contextuelle afin de distinguer ce qui est obligatoire, c'est-à-dire wajib, le préférable, le permissible ou encore le prohibé. Sans vouloir vous assommer de tous ces noms, et juste pour vous montrer qu'il ne s'agissait pas, contrairement à ce que certains disent, d'une femme ou deux femmes, j'ai une longue liste, je vais me contenter juste de certaines. Sheikha Shurda, décédée en 1178, intervenait auprès d'un large public d'étudiants hommes à la mosquée de Bagdad. Elle avait beaucoup de disciples et une large audience, tant dans les générations anciennes que jeunes. Et sa notoriété dépassait largement Bagdad. En Tunisie, Saïda Manoubia, décédée en 1257, a étudié le hadith et les sciences de la jurisprudence islamique. Et elle a été nommée le pôle de sa confrérie et dirigeait donc des imams. D'ailleurs, un ouvrage très important sur la Tunisie en langue française que je ne peux que vous proposer de lire, hein, l'ouvrage de l'historien d'Alanda Larguesh, portant sur la monogamie en islam, qui est une lecture très importante des possibilités ouvertes par l'islam, mais conditionnées par les rapports de pouvoir. Une autre femme, Fatima de Bagdad, décédée en 1314, Ibn Taymiyyah l'admirait pour son intelligence et sa clairvoyance. Zeynab, décédée en 1420, avait une position très élevée et en plus de ça, elle gérait les awqafs de sa mère. Aïcha, décédée en 1436, est une kériote spécialiste de fiqh et de hadith et aussi poésie. Elle a enseigné à de nombreux imams et aussi a voyagé en Palestine où il a enseigné le hadith à de nombreuses personnalités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, ces femmes voyageaient aussi beaucoup. Khadija de la Mecque également enseignait le hadith à de nombreux savants et était munie de connaissances et d'expériences. Il y en a d'autres, je ne vais pas... Alors Fatima, la fille de Gadi Kamal, née en 1451 au Caire, était spécialiste de hadith, elle voyageait beaucoup et procédait à rester à la Mecque, parfois à la Médine ou à Jérusalem. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour les savants religieux de l'époque, qui partageaient la vision éthique de l'islam, les femmes n'étaient pas considérées comme inférieures aux hommes. Omaïma Abou Bakr, qui est spécialiste par ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, mais elle est spécialiste justement de soufisme et des textes médiévaux, en particulier médiéval arabe, dit que ces muhaddisat étaient des enseignantes et éducatrices accomplies qui étaient connues non seulement pour la mémorisation, préservation et transmission de la tradition de hadith, mais aussi pour leur connaissance et leur maîtrise de ce corpus. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs eu des titres de shaykha qui, dans l'école hanbalite, étaient utilisés pour alema, muhaddisa, etc. D'autres avaient des titres comme sital wazara, dame de ministre, sital furaha, dame de juriste, sital ulama, sital roda, etc., etc. Les sociétés musulmanes du Moyen-Âge respectaient beaucoup ces femmes, mais elles étaient absentes de positions officielles, des madrassas et des postes juridiques. Cette absence relève ni d'interdits religieux, ni le refus de la société. Il s'agit d'une question de politique et de pouvoir, du monopole patriarcal de l'autorité politique qui a graduellement conduit à l'exclusion des femmes du pouvoir politique. Alors ici, je me permets de vous rappeler qu'en France, aussi, la loi Salique, qui, comme vous le savez, excluait d'abord les femmes de la succession de la terre, était modifiée après le décès de Louis X, en 1316, pour empêcher les femmes d'accéder au trône en France. Donc, il n'y a pas de religion, c'est juste des hommes politiques qui ont changé la loi pour empêcher les femmes d'accéder au pouvoir. Cependant, en Iran, sous la dynastie des Safavides, 1502-1722, alors que le chiisme devient religion officielle de l'État, les femmes de la famille royale jouissaient d'un statut particulier, elles recevaient une bonne éducation, étaient financièrement indépendantes, ce qui leur permettait de gérer leurs affaires et de soutenir des artistes et avoir aussi des fondations caritatives. De nombreuses femmes issues à la fois de la famille royale et de l'élite se trouvaient dans des positions de pouvoir. Certaines princesses, d'ailleurs, ne se mariaient pas et arrivaient sur la scène politique. Quelques exemples rapides. Princesse Mahin Banu, par exemple, décédée en 1562. Une autre, Pari, décédée en 1578. Ou encore Zeynab Begum, décédée en 1061. Alors, il y a également des femmes qui prenaient des décisions politiques, administratives et militaires et approuvaient même les décrets royaux. Maria Choupé, qui est spécialiste de cette période, dit ceci. Elle dit qu'aucune affaire n'était conduite sans son avis, sans l'avis de Khair al-Nissa Begum. D'autres femmes également, pendant cette période, avaient des positions de pouvoir. Et Soucha Abbas, pour ceux qui sont allés à Ispahan, c'est lui qui a fait d'Ispahan la capitale. Donc, Soucha Abbas Safavid, 1587, sous son règne, Zeynab Begum était une conseillère intime du roi et participait non seulement à des discussions militaires, mais à la gestion des affaires de l'État. Et après la mort de Shah Abbas, son successeur a décidé d'écarter des femmes de toute participation au pouvoir politique et militaire. Donc, selon Maria Choupé, au XVIe siècle, la société était prête en Iran. Pour accorder un espace plus grand et plus important aux femmes de la famille royale et celles issues de l'élite politique. La situation a évolué à partir du XVIIe siècle. Pourquoi ? Il s'agit de l'influence des peuples sédentaires qui a pris de l'importance, assignant davantage des femmes dans le confinement du harem. Corrélativement, le voile devient un symbole de statut parmi les classes dirigeantes musulmanes et l'élite urbaine sous l'Empire ottoman, mais aussi l'Empire safavide. Mais, selon les historiennes comme Leslie Pierce, mais aussi Jocelyn Dakhlia, les femmes du harem n'étaient ni plus ni moins recluses que les hommes du rang correspondant. Se protéger des regards dans la société ottomane, comme on l'a vu aussi pour l'Iran sassanide, etc., était affaire du statut et non de sexe. Pierce précise aussi que le pouvoir des femmes de la maison ottomane était trop publiquement affirmé, dit-elle, et trop solidaire de l'institution politique pour pouvoir être considéré totalement illégitime. De plus, le port du voile n'empêchait pas les femmes de se présenter devant les gadis, juges religieux, pour porter plainte, demander le divorce, la garde de leurs enfants ou leur part de l'héritage et d'obtenir souvent un jugement favorable, comme le montre l'étude menée par Roland Jennings dans les archives juridiques ottomanes du XVIIe siècle pour la région d'Anatolie. C'est-à-dire vraiment, c'était une pratique très courante. Aussi, conformément aux prescriptions et lois islamiques, les femmes musulmanes ont eu le droit de posséder et de contrôler leurs propriétés, alors que, on le sait, les femmes à cette époque-là en Europe n'avaient pas ce droit. À Alep, par exemple, en 1770, dans 59% de toutes les transactions de propriété, les femmes étaient impliquées, soit comme acheteurs, soit comme vendeurs. En 1800, ce taux a atteint 67% et en 1840, 53%. Mais la situation s'aggrave sous le colonialisme britannique et l'influence du code de Napoléon de 1804 qu'on ne doit absolument pas oublier puisque ce code a eu également des impacts néfastes sur les pays colonisés par à la fois britanniques, français, etc. L'histoire contemporaine des sociétés moyen-orientales maintenant montre que le référent islamique dans le domaine du genre ne relève pas d'un fait conjoncturel et qu'on peut distinguer différentes approches de l'affaire des femmes musulmanes. En réaction aux positions modernistes, sécularistes ou occidentalistes, certaines femmes revendiquaient le retour à l'âge d'or de l'islam. En Égypte, Fatma Rachid, par exemple, a fondé une association en 1908 et un journal. Fatma Rachid militait pour que les femmes retournent à la religion, à la piété et à la modestie. On trouve énormément aussi de références en Égypte de fin 19e, début 20e siècle. Labiba Ahmad, par exemple, qui a fondé en 1921 la Société du réveil des femmes égyptiennes et qui avait aussi un journal. Elle avait bien sûr des activités philanthropiques comme beaucoup d'autres femmes à cette époque-là, mais elle soulignait aussi l'importance de l'éducation et appelée au boycott des écoles étrangères, parce que c'était une nationaliste religieuse, Labiba Ahmad, revendiquait le renforcement de l'apprentissage de la langue arabe et de l'étude du Coran, et estimait que l'école devait être gratuite à la fois pour les garçons et pour les filles. Ici, je cite une historienne très importante de l'Égypte de cette période, qui est Beth Baron, qui a un livre très important, pour moi en tout cas, qui s'appelle « Egypt as a woman »,« Égypte comme une femme ». Labiba Ahmad a montré que les femmes n'étaient pas simplement des objets du discours islamiste, mais des militantes à part entière. Et sa vision mettait en valeur l'image, celle d'une femme islamiste moderne qui rivalisait avec l'idéal d'une nouvelle femme séculière. Une autre femme très importante dans l'histoire de l'Égypte, Zeynab al-Ghazali, qui deviendra l'une des figures marquantes du mouvement religieux et politique des femmes conservatrices. Elle avait adhéré à l'Union des femmes égyptiennes, qui est une organisation féministe fondée par Hoda Sharawi en 1925. Et elle adhère à cette organisation en 1935, mais assez rapidement, elle prend ses distances, quitte l'Union. Ce qui est intéressant, c'est que Hoda Sharawi avait demandé à Zeynab al-Ghazali de ne rien faire contre l'Union des femmes égyptiennes, et en réalité, elle accepte et elle ne fait rien contre. Alors même qu'elle deviendra plus tard, en 1940, par exemple, dirigeante des sœurs musulmanes égyptiennes. Un peu plus proche de nous, dans les années 1980 et 90, c'est la politiste Heba Rauf Ezzat qui représente la voix politique des femmes islamistes. Elle tentait de parvenir à créer une modernité islamique à travers une critique du sécularisme et du féminisme qui, disait-elle, insistait sur les droits individuels aux dépens des valeurs collectives. Elle rejetait les divisions entre les espaces publics-privés et revendiquait la liberté de choix pour les femmes, soulignant les droits qu'elles avaient dans les traditions islamiques. Enfin, Omaima Aboubakr, professeure de littérature anglaise et comparée à l'Université de Caire, qui constitue, à mon sens, l'exemple par excellence d'un féministe musulman. Elle a fait ses études à l'Université du Caire, puis à Caroline du Nord et à Berkeley, spécialiste de la poésie soufie médiévale et de la littérature anglaise et arabe médiévale. Elle s'intéresse aussi aux femmes mystiques et à la spiritualité féminine dans le christianisme et l'islam. Et donc, elle a cofondé, en 1995, The Women and Memory Forum au Caire. Et donc, ce forum est composé à la fois d'universitaires, de chercheurs et de militantes à la fois musulmanes et séculières, qui sont concernées par les représentations et les perceptions négatives des femmes arabes et musulmanes dans la sphère culturelle. Et donc, il s'agit pour elle de dire que c'est le manque de connaissances et d'informations culturelles alternatives sur le rôle que les femmes ont joué dans l'histoire de l'islam et dans leur société qui contribue à cette mauvaise perception des femmes. Et donc, il y a des groupes de recherche que le Forum a créés et qui, finalement, vont faire des recherches très importantes dans des archives, etc., et qui réhabilitent et qui déterrent, si vous voulez, toutes ces femmes qui ont joué des rôles importants dans l'histoire de leur société. Un exemple, avant de passer à l'Iran, moi je travaille sur les féministes et les mouvements des femmes en Turquie depuis quelques années. Et en Turquie, je me suis intéressée en particulier à une association qui s'appelle la Plateforme des femmes de la capitale, qui est une association de femmes musulmanes turques fondée en 1995, dont plusieurs se disent féministes. Parmi elles, Hidayet Tüksal, théologienne réformiste et féministe, qui est une personnalité incontournable au sein des féministes musulmanes en Turquie. Elle historicise et contextualise l'islam et le Coran et avertit contre l'anachronisme, précisant que, je cite Tüksal, « prétendre trouver dans le Coran une approche contemporaine de l'égalité des sexes est illusoire. Les versets avaient pour but d'améliorer le sort des femmes de son temps. C'est parce que j'ai trouvé cette souplesse dans le livre saint que je continue à être musulmane. » Madame Tüksal a par ailleurs joué un rôle très important dans les événements de juin-juillet 2013 de Park Gezi. Elle était là, elle a résisté aussi contre le néolibéralisme de M. Erdogan. Alors maintenant en Iran. L'Iran avait une mujtahidée à l'époque contemporaine qui s'appelait Madame Alavi Esfahani Amin. Elle était fille d'un célèbre grand commerçant du 19e siècle. Madame Amin fut l'une des plus éminentes personnalités islamiques. Elle a reçu l'autorisation d'interprétation des plus hautes autorités religieuses de son temps, dont Cheikh Haïri, qui est fondateur de l'école théologique de Rome, pour devenir source d'imitation. Là, on est dans le monde chiitain, 12 imamites, institutions cléricales. Plus tard, elle a autorisé à son tour plusieurs membres éminents du clergé, y compris l'ayatollah Najafi Marashi. Mais cette dame est décédée au début des années 1980, après la révolution donc, et depuis on n'a plus de mujtahidée. Mais Fatemeh Amini, qui est une religieuse, que j'ai d'ailleurs rencontrée, interviewée en 1994 à Téhéran, elle a fondé déjà en 1972 la première école religieuse pour femmes à Rome, puis a dirigé trois autres écoles théologiques pour femmes avant celle de Fatemeh Zahra à Téhéran. Et elle précise, je cite, selon le Coran, les hommes et les femmes sont égaux. La société a besoin aussi bien de femmes médecins et ingénieurs que des femmes mujtahidées. Cependant, moi je lui ai promis, elle m'a demandé de ne pas divulguer ce qu'elle m'a raconté à l'époque, en tout cas, en persan, et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais divulgué ça en persan, mais bon, elle ne m'a pas dit ne divulgue pas ça en français. Alors, elle m'a dit, cependant, de multiples obstacles sont dressés devant les femmes souhaitant atteindre le degré d'ijtihad. Interprétation. Les hommes ont empêché les femmes de croire en elles-mêmes. Notre but est de former des jeunes femmes spécialistes de jurisprudence islamique capables de trouver des solutions aux problèmes de la population féminine, y compris les problèmes sociaux, et aussi augmenter la confiance des femmes en elles-mêmes. Alors, de nombreuses autres femmes qui, au début, effectivement, avaient soutenu le pouvoir islamique, se sont en effet ralliées à la lutte sociale de leurs consorts séculières pour contester les lois en vigueur qui attribuent un statut de citoyenne de seconde zone aux femmes et pour revendiquer l'égalité des droits à travers une relecture au féminin du Coran et des traditions, d'une part, mais également les références aux chartes et conventions internationales, d'autre part. Ces femmes ont adopté une stratégie visant à défier les rapports de pouvoir, mais dans le contexte de contraintes concrètes. Rejetant les lois qui renforcent la suprématie de l'homme dans la sphère privée, ces militantes ont plaidé pour l'égalité des droits et le partage des responsabilités entre les époux. Elles ont aussi procédé à l'historicisation et contextualisation de la religion pour proposer de nouvelles interprétations de versets coraniques visant à changer les lois. Alors, elles ont publié un certain nombre de magazines, de journaux, etc. dans les années 90, quand l'Iran sortait de la guerre de 8 années de guerre avec l'Irak. Et donc, c'est vraiment les années 90 pour l'Iran. C'est une période très importante en ce qui concerne donc cet effort de contextualisation, historicisation, réinterprétation, relecture. Et on dit même que ce qu'on appelle le féminisme islamique aurait commencé en Iran. Alors, je ne suis pas si sûre que ça, parce qu'effectivement, quand on lit l'histoire, par exemple, on voit que ces féministes islamiques, ou ce qu'on peut aujourd'hui appelé féministe islamique, existait déjà, par exemple, en Égypte. Les exemples ne manquent pas dans les années déjà début 1900. De toute façon, ce que font ces femmes, en particulier, par exemple, l'une d'elles, Azam Talrani, je la cite parce que c'est quelqu'un qui est fille d'Ayatollah. Ayatollah Talrani, c'est quelqu'un qui a une licence en sciences politiques, mais en même temps, elle s'est formée en études religieuses. Et donc, elle réfute dès 1992, la légalisation de la polygamie et propose une nouvelle interprétation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que l'analyse des versets coraniques sur la polygamie montre que ce droit est recommandé par le Coran dans certains cas spécifiques et uniquement pour subvenir à un besoin social et en vue de répandre la justice sociale. Dans l'absence d'institutions sociales de prise en charge de veuves et d'orphelins, cette responsabilité fut déléguée aux hommes musulmans via la polygamie. Alors, elle associe aussi son interprétation des versets coraniques à la réalité de la société iranienne pour rejeter la polygamie comme une nécessité sociale. Elle dit, contrairement à l'époque ancienne, l'État moderne et ses institutions sociales sont conçues pour subvenir aux besoins des familles en difficulté. La polygamie n'a donc aucune fonction sociale à remplir. Le code pénal iranien actuellement est aussi fondé sur les lois dites islamiques, qui n'échappe pas aux critiques des militantes. Je cite une autre qui est juriste elle-même et qui a été aussi, qui a travaillé à l'école théologique avec Ayatollah Marashi également pour se former en études théologiques. Elle dit une grande partie des lois en vigueur peuvent et doivent être changées parce qu'elles ne sont pas d'ordre divin. Elles sont fondées sur les principes secondaires, arkan sanawiya. Le prix du sang en fait partie. Il a été déterminé à une époque où les femmes étaient valorisées comme combattants contribuant à l'expansion de l'islam, tandis que les femmes étaient dépourvues de telles valeurs sociales. Le temps a changé et les lois doivent refléter ce changement. La loi concernant le prix du sang ne peut pas fonctionner dans une société où les femmes sont médecins, avocates, professeurs d'université, ingénieurs, etc. Alors, leur vie doit avoir bien sûr la même valeur que celle des hommes. Parmi ces publications, je voudrais quand même souligner l'importance d'un magazine, Zanane, qui d'ailleurs est premier à s'être déclaré féministe publiquement, qui a été interdit en 2008 et qui publiait dès 1992 une série d'articles qui pour moi était absolument importante parce que c'est la première fois que j'entendais cette autre son de cloche de la part des femmes qui se disent à la fois musulmanes, mais aussi féministes, et qui donc proposent une autre lecture, une autre compréhension de l'islam et des lois. Bref, il y a une série d'articles pour montrer que le Coran n'interdit pas aux femmes de délivrer des édits religieux et qu'a fortiori, elles peuvent prendre la direction religieuse, juridique et politique de la société. Le droit successoral, calqué sur le modèle islamique, n'échappe pas à leur critique non plus, arguant qu'il convenait à une époque où la fonction économique était exclusivement réservée aux hommes, la participation des femmes aux activités économiques et aux revenus du ménage rend caduque le partage inégal de l'héritage. Je cite, « Un homme en tant que tel n'a absolument aucun privilège naturel ni contractuel par rapport à une femme. » Si un homme peut devenir juge, une femme le peut aussi. Si un homme peut devenir source d'imitation, une femme peut le devenir aussi, etc. Donc, les féministes musulmanes cherchent à comprendre comment les rapports de pouvoir ont pris corps dans les institutions et législations et comment les tensions générées dans les sociétés déplacent les enjeux et permettent de délégitimer ces règles, normes et représentations. En Iran, ces femmes bénéficient aussi de soutien ou de travail d'autres femmes qui, elles, ne sont pas du tout féministes, mais spécialistes de l'islam. L'une d'elles, Monir Gorji, est une spécialiste reconnue de l'islam. Elle réfute la position politique de la jurisprudence islamique qui interdit aux femmes l'accès aux postes de direction politique sous prétexte de leur fragilité physique et morale. Elle se réfère au Coran et elle affirme, je cite, « Le Coran ne mentionne que très peu de dirigeants politiques et pourtant la reine de Saba, Balreis, en fait partie. De plus, elle est dépeinte comme l'un des dirigeants les plus justes et les plus rationnels. » Le mot rationnel est utilisé. Ceci suffit pour attester que le Coran accepte la capacité des femmes à gérer et à gouverner. Donc, on constate que les interprétations figées, rigides et androcentrées des islamistes du Coran et des traditions qui imposent des limitations importantes aux droits des femmes et les infériorisent sont contestées par de nombreuses militantes à la fois séculières et islamiques, notamment, je l'ai dit, à partir des années 90. Des militantes musulmanes ont évolué sur une scène globalisée qui entraîne une dissociation entre religion et politique. Donc il faut contextualiser, sinon on ne comprend rien. Elles cherchent à préserver le caractère musulman de la société tout en rejetant les lois et institutions calquées sur un modèle islamique. Comme l'a précisé Alain Roussillon, je rends hommage à sa mémoire, nous a quitté trop tôt. La question posée n'est pas seulement celle de savoir relire le Coran, mais de savoir comment vivre individuellement et collectivement en tant que musulmane dans un monde dont l'identité et les articulations cardinales en contexte de globalisation ne peuvent pas être pensées en termes religieux. Je ne voudrais pas continuer sans citer un certain nombre d'hommes qui participent à ce travail de réinterprétation. C'est important le soutien des hommes. Face aux femmes donc, qui rejettent la justification divine d'un choix politique et revendiquent le changement des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, les lectures dynamiques et contextuelles de l'islam ont aussi émergé au sein des clercs aux dépens des interprétations officielles. Il est intéressant effectivement de constater que les intellectuels religieux comme Abdelkarim Sorouche, que certains d'entre nous peut-être connaissent, ne s'expriment pas ou très peu sur la question. Ce sont surtout des clercs qui écrivent, qui réfléchissent, qui réinterprètent. Peut-être parce qu'ils estiment que les affaires des femmes sont secondaires. Plusieurs clercs iraniens contribuent à la cause des femmes en critiquant les interprétations erronées du Coran et la limitation des droits des femmes au nom de la religion. Et très rapidement, je voudrais juste en citer quelques noms. L'ayatollah Jannati, il est clerc et enseignant à l'école religieuse de Rome, et il affirme qu'il existe plus de 50 000 hadiths fabriqués, c'est-à-dire non authentifiés, dont la plupart contre les femmes. Donc il se pose la question, pourquoi on a fabriqué des hadiths justement les hadiths qui sont contre les femmes. Et il dit que ces hadiths ont été souvent utilisés comme prétexte pour empêcher les femmes d'accéder aux postes élevés et aussi à leurs droits. Un autre, le grand ayatollah Youssef Sanei, qui est enseignant à l'école théologique de Rome, l'un de ceux pour lesquels l'islam ne constitue pas un corpus de doctrine figé et immuable. Il se positionne contre l'islam officiel et plaide pour la compatibilité entre l'islam et la démocratie. Et il a affirmé que l'islam peut et doit s'adapter à la volonté populaire. Enfin, il a dit littéralement, l'islam, c'est ce que les gens construisent. S'adapter à la volonté populaire et que l'islam n'interdit pas aux femmes de devenir juges, de délivrer des édits religieux ou même diriger le pays. En décembre 2002, il a même délivré une fatwa, un édit religieux, selon laquelle la valeur de la vie d'une femme doit être égale à celle d'un homme. Donc il est allé à l'encontre aussi du code pénal. Mohamed Mojtahid Chabestari, que je citais précédemment, lui précise que le cheminement du prophète était de l'injustice vers la justice. Il dit « Mais les changements dans le statut des femmes qu'il a effectués ne sont pas le maximum des changements possibles. Le principal message de ces changements est le suivant. » D'autres inégalités imposées aux femmes tout au long de l'histoire doivent être abolies. S'appuyant sur cette même lecture de l'islam, Chabestari, tout comme plusieurs autres clercs réformistes et intellectuels religieux, plaide publiquement pour la séparation entre la religion et l'État et défend les droits universels de l'homme. Enfin, Mohsen Khadivar, qui tout comme Chabestari conclut que si on se fonde sur une interprétation correcte, fondée sur le texte sacré et les traditions valides, l'islam soutient hautement la liberté de pensée et de la religion et se trouve en accord avec les principes des droits de l'homme. De son exil états-unien, parce que Mohsen Khadivar a dû quitter l'Iran il y a plusieurs années de ça, De son exil états-unien, il conclut également à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'islam. Donc il continue à travailler et il y a une importante aussi répercussion de son travail en Iran. Donc pour conclure, les militantes musulmanes des droits des femmes ou féministes se réfèrent souvent à la même religion pour contester sa lecture sexiste et les rapports de pouvoir. Des féministes musulmanes turques déclarent, je cite, l'islam est souvent considéré comme une entrave à l'autonomisation des femmes, mais en réalité, ce n'est pas l'islam en soi qui spolie les femmes, ce sont les interprétations patriarcales masculinistes de l'islam. Il faut une nouvelle interprétation, celle du XXIe siècle, du point de vue des femmes. À travers l'historicisation et la contextualisation de l'islam, des militantes des droits des femmes et féministes ont pensé la dialectique entre invariants et variations dans la religion qui implique les déplacements et ruptures des préceptes et traditions islamiques. Elles ont ainsi rejeté la vision déterministe de la religion qui sert à défendre la discrimination sexuelle. Elles ont refusé les justifications divines et elles ont désacralisé les lois islamiques. Donc, le caractère divin des lois et traditions s'estompe pour laisser la place à la discussion critique. Elles ont aussi placé l'égalité sociale entre les hommes et les femmes au cœur de la critique de l'autorité arbitraire, attestant de l'enjeu principal que représente la question de genre dans des pays où la religion a été instrumentalisée pour justifier l'ordre politique patriarcal. Aujourd'hui, d'ailleurs contesté par les femmes, il suffit aussi de voir ce qui se passe, entre autres, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi au Maghreb. Refusant une identité assignée et un choix imposé entre l'autre absolu que leur imposent les néo-orientalistes ou l'autre domestiqué que leur imposent les islamistes, elles réinventent la vision égalitaire de l'islam pour établir l'exercice du pouvoir et d'autorité par les femmes et revendiquer leur citoyenneté pleine et entière. Et j'ajoute Inch'Allah. Merci.